Vous écoutez Radion, il est 21h passé de quelques secondes. Bonne soirée à toutes et à tous et merci d'être fidèles à ce nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, nous allons vous proposer un entretien avec Dominique Bonnat. Dominique Bonnat, que nous avons rencontré le 23 janvier dernier à Dijon, alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne au Grand Hôtel de la Cloche, place d'Arcy. Et Dominique Bonnat fait reparaître dans une édition illustrée et riche d'archives inédites une biographie intitulée « Une vie de gala ». Alors, qui était Elena Diakonova, plus connue sous le nom de Gala, la mystérieuse et inséparable épouse de Paul Éluard, puis de Salvador Dali? Eh bien, c'est une femme solitaire, fermée sur un monde intérieur dont elle garde farouchement le secret. Gala fascine toujours et a joué de ses multiples sortilèges. En elle, ces deux grands artistes du XXe siècle ont puisé une énergie vitale, puissante. Elle fut vraisemblablement une part de leur génie. C'est donc un entretien avec Dominique Bonnat de l'Académie française que nous allons vous proposer ce soir. Un petit rappel sur l'auteur. Elle est agrégée de lettres modernes. Elle a été assistante à France Culture et à France Inter, journaliste et critique littéraire au Quotidien de Paris, puis au Figaro littéraire. Elle a reçu le prix Renaudot en 1998 pour le manuscrit de Port et Ben, le prix Méditerranée pour Gala en 1994 et le prix Interallié pour Malika en 1992. Elle a été élue à l'Académie française en avril 2013 au fauteuil de Michel Mort. Elle devient d'ailleurs la 8e femme immortelle depuis la création de l'Académie française par Richelieu en 1635. Elle est d'ailleurs, au moment de son élection, la Benjamine des Immortels. Mais une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir ce numéro de Wagon Livre avec une pause musicale. Et juste après, bien sûr, nous allons découvrir la vie de cette mystérieuse Gala qui a tant inspiré le poète Paul Éluard et le peintre Salvador Dali. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h.
I want to dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Bonsoir Dominique Bonnard.
Bonsoir.
Alors vous venez de faire paraître Une vie de gala, c'est une biographie illustrée dans un très beau format distribué par les éditions Flammarion et vous revenez donc sur Gala. Gala, la muse de deux grands artistes du XXe siècle, d'abord le poète surréaliste Paul Éluard et ensuite le peintre surréaliste aussi, lui, Salvador Dali.
Oui, Gala, c'est un sujet absolument inépuisable. Il y a quelques années, je m'étais plongée dans cette étude de sa vie, de son personnage. Et c'est vrai que c'est une femme très mystérieuse, qui, bien qu'elle soit connue et dans le monde entier, de manière tout à fait internationale, on connaît Gala en Amérique, en Russie, au Japon, eh bien, c'est une femme qui a su garder son secret. Donc c'est ce secret qui m'intriguait, que j'avais envie peut-être d'élucider. Je ne sais pas si je suis entièrement parvenue, mais en tout cas, cette aventure d'écrire une biographie de Gala m'a beaucoup intéressée parce que ça entraîne évidemment dans le tumulte d'une époque. Elle a connu tous les génies de son temps, elle a même épousé la vie de deux d'entre eux et même presque de trois d'entre eux. Donc c'est une femme tout à fait étonnante. Et je dois dire que Flammarion a fait un très beau travail en m'aidant justement à rassembler toute cette iconographie. Pour une part inédite, pour une grande part, puisque la famille Éluard a exceptionnellement ouvert ses archives et confié toutes sortes de documents pour que nous puissions faire ce livre.
Alors notre Gala est née en fait Dimitrievna Diakonova, elle est russe d'origine, elle est née au bord de la Volga, à Kazan, capitale des Tatars, et... Effectivement, j'ai relevé quelques expressions tout au long de la biographie. Elle est présentée comme la plus secrète des muses, comme une ensorceleuse, comme celle qui ne voulait pas se laisser décrypter, mais qui portait en elle une énergie vitale qui vraisemblablement a rejailli sur la poésie de Paul Éluard et sur l'art assez génial de Salvador Dali.
Oui, c'est sûr que c'est une femme extraordinairement tonique. On le ressent rien qu'à se plonger dans le récit de sa vie, c'est-à-dire qu'elle a des ondes positives et qui vous entraînent, plus ou moins malgré vous, vers la vie. Au fond, c'est une femme qui a profondément aimé la vie. Elle a aimé vivre et elle était douée pour ça. Donc elle a une très bonne santé, elle a un corps solide et elle va de l'avant. Sans jamais connaître des périodes taciturnes ou de tristesse. Elle a ses peurs, elle a ses angoisses, mais cela ne la freine jamais dans ses élans. J'allais reprendre pour elle une phrase romantique, on pourrait dire de Gala, c'est une force qui va. Gala, c'est un nom mystérieux, vous savez, parce que Gala, c'est donc un diminutif, vous avez cité son nom russe en entier, son état civil russe, mais Gala, c'est le surnom qu'on lui avait donné quand elle était petite, dans sa famille en Russie, et c'est un peu étrange parce que les Russes connaissent un prénom qui est Galia, avec un I. Pour elle, c'était Gala. Personne ne sait exactement pourquoi. J'avais rencontré sa sœur à l'époque où j'écrivais ce livre, et sa sœur elle-même n'avait pas pu m'expliquer l'origine de ce nom. Enfin, elle est comme ça, on la connaît avec un seul prénom. C'est quand même rare dans la vie de connaître un personnage uniquement pour un prénom. Il ne vaut que pour elle.
Si je vous ai bien lu, adolescente, vous l'avez aperçue sur une plage.
Oui, je l'ai aperçue adolescente, ça veut dire il y a très longtemps. Je suis d'origine catalane du côté français, je suis née à Perpignan, et quand j'avais 15 ans, 17 ans, 18 ans, avec une bande d'amis, nous allions très souvent de l'autre côté de la frontière. C'est très facile d'aller de l'autre côté de la frontière pour nous baigner à Cadaqués. Cadaqués a toujours été un port méditerranéen plein de charme. C'est un petit Ibiza, on peut dire, sur la côte catalane. Et un peu d'ailleurs secret, parce qu'il faut y aller par une route qui passe par un col de montagne pour redescendre ensuite vers la mer. Et là, bien sûr, nous allions nous baigner parmi les rochers et on a souvent aperçu cette silhouette de Gala en short, avec ses grandes jambes, chaussée d'espadrilles comme une vraie catalane, et qui marchait dans la garrigue en se dirigeant vers la plage. Dali avait sa maison avec Gala. Enfin, en fait, la famille de Dali avait une maison de vacances à Cadaqués. Mais quand il a connu Gala, il s'est installé dans une maison de pêcheurs, une véritable baraque, dans les années 30, qu'ils ont aménagée progressivement et qu'il a transformée en une sorte de temple à sa propre gloire. Vous savez que c'est une maison blanche. Ceux qui sont allés à Cadaqués la voient très bien. C'est unique au monde, cette villa de Dali au bord de l'eau, avec deux énormes œufs, des œufs, sur le toit, parce que ce sont les œufs de Léda. Léda, c'est la déesse aux cygnes, qui est la mère des jumeaux de la mythologie. Dali a beaucoup développé ce syndrome du jumeau, et c'est Gala qu'il a représenté sur un tableau, ou même sur plusieurs tableaux, en déesse aux cygnes, en Léda.
Léda Atomica.
Elle est la mère, en fait. C'est curieux, parce que c'est cette femme dont il est tombé fou, amoureux, et qui a aussi eu pour lui un coup de foudre en 1929, l'été 1929 à Cadaqués, bien cette femme est en même temps la mère, l'image de la mère, l'image de l'amante, l'image de la compagne inséparable. Ils vont former un couple mythique réellement, un vrai couple d'ailleurs, ils sont inséparables à la fois dans notre mémoire, mais ils étaient inséparables dans la vraie vie, et ce qui est le comble pour un artiste, c'est que souvent Dali a associé à son propre nom le nom de Gala. Il a signé de très nombreuses toiles, Gala, Dali, Dali, Gala. C'est très étrange.
Alors vous la trouvez sympathique, parce que Peggy Guggenheim nous dit que c'est la plus antipathique des femmes.
Oui, alors il faut dire que Peggy Guggenheim était elle-même assez rude, pour ne pas dire méchante, et ne s'entendait pas du tout avec Gala. Mais il y a une part de vérité dans cette phrase. C'est vrai que c'est une femme qui n'est pas forcément sympathique. D'ailleurs, on peut écrire des livres sur des gens qui ne sont pas sympathiques. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à aller vers la mièvrerie, c'est-à-dire à aller vers les gens tout sucre et tout miel. Alors, Gala n'est pas du tout tout sucre et tout miel, c'est même le contraire. Elle a aimé repousser les gens, elle a aimé se construire une sorte de paroi de glace autour d'elle, très peu de personnes qui sont allées au-delà de la paroi de glace, et elle était souvent rébarbative. Quand un jour un journaliste l'a approchée et lui a dit « Alors, madame, quel est votre fantasme à l'instant précis, aujourd'hui ?» Elle l'a regardé de très très haut et elle lui a dit « Mangez mon chat ». Évidemment, il n'a pas su quoi répondre et elle s'est éloignée comme une reine, comme elle avait l'habitude de le faire.
Et même dans le groupe surréaliste, au moment où elle est l'épouse d'Éluard, elle dérange,
oui,
il n'y a pas grand monde qui l'apprécie.
Non, on peut le dire carrément, personne ne l'aime dans le groupe surréaliste. Et c'est ça qui est curieux et c'est ça qui est intéressant. C'est cette femme, au fond, qui n'est pas sympathique, cette femme que les gens n'aiment pas, qui est assez solitaire, qui a très peu d'amis dans la vie. Eh bien, elle a suscité des passions d'exception, on peut dire ça, chez les artistes qu'elle a aimés ou qui l'ont aimé, Paul Éluard comme Salvador Dali, et entre les deux, Max Ernst, ont quand même eu pour elle des sentiments très au-dessus de la moyenne, des sentiments enflammés, brûlants, et qui sont passés à la postérité grâce à leur œuvre.
Alors, est-ce qu'elle avait vraiment une sorte de don de voyance ? Est-ce qu'elle avait un don ?
Elle était assez sorcière. Hein. Elle est assez sorcière. Bon, je ne devrais peut-être pas la présenter comme ça, mais il y a un fond de superstition chez elle. Elle a tendance à faire des nœuds à ses mouchoirs, à toucher du bois. Elle transporte ses icônes. Non pas que l'icône soit une superstition, car Gala est très religieuse, très attachée à l'orthodoxie. Religion orthodoxe des Russes, mais en même temps, c'est vrai qu'elle entretient avec des forces obscures des liens un petit peu mystérieux. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette femme, une sorte de préscience des hommes qu'elle choisit. Parce que quand elle s'éprend de Paul Éluard, il ne s'appelle même pas Paul Éluard, il s'appelle Eugène Grindel. Il n'a strictement rien publié. Il commence à peine à griffonner de premiers vers sur du papier. Ils sont ensemble dans un sanatorium. C'est juste avant la guerre de 14.
Donc c'est dans les Grisons.
Oui, à Davos, exactement, en Suisse. Ils soignent tous les deux une tuberculose qui n'est pas trop grave, mais enfin qui inquiète leur famille. et ils vont se lier, et puis 2 ans plus tard, elle va traverser, ou 3 ans plus tard, elle va traverser l'Europe en guerre pour le rejoindre et pour l'épouser. Et c'est à côté de Gala, dans ce fameux sanatorium, que Eugène Grindel va devenir Paul Éluard, à la fois trouver son nom, dédier à Gala ses premiers textes, et puis progressivement devenir le poète que l'on connaît. Mais un poète qui aura, comme dit la chanson, trempé sa plume dans l'encre de ses yeux, qu'elle avait noire d'ailleurs, qu'elle avait sombre. Mais c'est vraiment, d'ailleurs pas tout à fait noir, un peu teinté de doré, mais enfin c'était quand même un regard très sombre, ce regard de Gala. Et Éluard a été emporté pour toute la vie. Quand elle l'a quitté en 1929 pour rester avec Dali, il a eu vraiment un véritable traumatisme. Ça a été très difficile. Les lettres à Gala de Paul Éluard témoignent de tout cela, et les poèmes à Gala, qui sont innombrables, encore plus.
Si vous le voulez bien, Dominique Bonnat, nous allons marquer un nouvel intermède musical et puis nous reprendrons avec vous, bien sûr, cette passionnante conversation autour de la vie de Gala, la muse de Paul Éluard et de Salvador Dali. C'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Un peu sous, je déambule sur les lignes du métro, crépuscule sans héros. Solitude dans le rétro, j'éteins mon mégot sur le cœur des Jedi, les yeux vitreux, je les mitraille. Un peu saoul sans matricule, j'écume la nuit noire, je consomme du bonheur que je perds sans savoir. Je t'oublie quand je me déhanche, je souris sauf le dimanche, j'ai le cœur balançoire, je passe des mes espoirs se brisent, adolescents pirates sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade, je voyage, 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 voyage. Je voyage, 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 je voyage. Je n'écoute plus ces léopards qui me racontent des histoires sous leur blouse de motard, accoudés au bar. J'éteins leur ego, je n'aime plus leur regard. J'ai le cœur balançoire, je passe des rêves au cauchemar. Mes espoirs se brisent, adolescents pirates sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade, je voyage, 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 voyage. Je voyage, 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 je
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Retour avec notre invité Dominique Bonnat de l'Académie française pour sa biographie « Une vie de gala » disponible aux éditions Flammarion. Gala l'indomptable, l'ensorceleuse qui ne voulait pas se laisser décrypter. Elle n'est d'ailleurs jamais allée vers le public, ni pour le convaincre, ni pour le séduire. En revanche, Gala a offert au poète Paul Éluard et au peintre Salvador Dali son énergie, sa force brutale et sa passion de la vie. Gala et Paul Éluard se marient à Paris en 1917 et le 11 mai 1918, Gala met au monde une petite fille qui répond au prénom de Cécile. Alors, Dominique Bonnat, il faut bien reconnaître que Gala a été peu maternelle avec sa fille. Elle n'avait absolument pas la fibre maternelle et on peut dire qu'elle n'avait aucun intérêt pour les bébés ou les enfants.
Oui, on peut le dire comme ça. C'est une femme qui a été à la fois sensuelle et maternelle avec les hommes de sa vie, qui a été attentive à leur destinée, qui a veillé sur eux, qui les a soignés, protégés, qui leur a communiqué son énergie, ce pouvoir qu'elle avait de les rassurer sur eux-mêmes, certainement. Et elle leur a donné des ailes, d'une certaine façon. En revanche, l'enfant, visiblement, est de trop dans cette relation qu'elle construit avec l'homme de sa vie. Donc l'enfant, en l'occurrence la petite fille Cécile, qui sera une enfant unique, la seule qu'elle aura jamais, est confiée à la grand-mère, c'est-à-dire à la mère de Paul Éluard, élevée par elle, voit sa mère comme ça, et progressivement, c'est vrai, surtout quand Gala choisit de vivre avec Dali, eh bien, elle ne la voit plus que de très loin en très loin. Alors c'était une relation compliquée et difficile que j'ai retrouvée curieusement dans mon dernier livre qui est sur Colette, où j'ai vu également chez Colette, qui elle aussi est mère d'une fille unique, cette espèce d'éloignement nécessaire, à la fois parce qu'elle n'assume pas du tout cette maternité, et puis probablement parce que l'enfant, ben c'est encombrant un enfant, il faut s'occuper de lui, il faut jouer avec lui, veiller sur lui, ça prend beaucoup de temps. Et Colette, pour travailler, pour écrire, mais aussi pour vivre sa vie amoureuse, n'avait pas de temps pour sa fille, et Gala non plus.
Alors la sexualité de Gala, certains l'ont dit nymphomane, vous écrivez que ce n'est pas tout à fait
non,
le cas.
Non, je ne définirais pas du tout comme ça, non. Non, je pense, en tout cas au début, dans toute la première partie de sa vie, ou même on peut dire au-delà de la moitié de sa vie, c'est plutôt une femme monogame, fidèle à l'homme qu'elle a choisi. Il y a une espèce de d'entêtement presque dans la passion de Gala. Elle est totalement donnée, offerte à Paul Éluard dans une première partie. Elle le sera de la même façon à Salvador Dali assez longtemps. Quand elle a une liaison avec Max Ernst, on peut vraiment dire que Paul Éluard en est tout à fait responsable.
Alors on a l'impression que Éluard a un plaisir à savoir que sa femme est partagée par un autre.
On peut le dire comme
ça. C'est très étrange.
On peut le dire comme ça. Il y a un jeu érotique, il y a un jeu pervers de la part d'Éluard qui avait envie de voir sa femme dans les bras de son meilleur ami.
C'est un point commun un peu avec Dali, c'est ce fameux
clé d'Ali, c'est ça ? Dans la psychanalyse, très bien. Et en fait, donc elle joue ce jeu, ils sont tous les trois extrêmement malheureux, et finalement, c'est là qu'intervient Dali. Il se trouve qu'Éluard et Gala partent en vacances en Espagne pour essayer de se réconcilier, et finalement, eh bien, Gala va laisser Éluard rentrer tout seul à Paris. Pas alors, tout à fait tout seul, mais avec sa petite fille, justement.
Alors la biographie, là, vous l'avez dit, Dominique Bonnat, revient bien sûr sur les grands courants artistiques du XXe siècle. Donc il y a le mouvement Dada, ensuite il y a le groupe surréaliste, dominé par le pape du surréalisme, Breton. Alors il y a une scène formidable, c'est que Breton, bien sûr, va s'engager plutôt du côté du communisme, alors que Dali n'est pas du tout politique. Et pourtant, plus tard, il a eu des positions par rapport au franquisme un peu surprenantes.
Oui, en fait, les positions politiques de Dali, on peut dire, elles ont leur racine dans son inconscient, dans sa personnalité bouillonnante, surréaliste, on ne peut plus surréaliste. Au fond, cet homme-là, il n'a aimé qu'une seule chose dans la vie, c'est peindre. Il est vraiment dédié à à 100% à cette peinture qui l'obsède et dont il ne s'éloigne jamais, à aucun moment.
Peindre et provoquer aussi.
Peindre, oui, alors provoquer, ça viendra peu à peu, c'est en lui, c'est-à-dire c'était une personnalité inhabituelle, insolite. C'est Michel Déon, je crois, qui m'avait le mieux parlé de lui. Michel Déon l'a connu très jeune, Salvador Dali, il est allé souvent à Cadaqués, à Figueres aussi, et il a même réécrit les mémoires de Salvador Dali que Dali avait donné. C'était un manuscrit bouillonnant, presque illisible, écrit dans des sortes de hiéroglyphes. Et Déon a réussi à déchiffrer tout ça. Et Déon, qui a vraiment été au plus près de Salvador, en fait, l'a beaucoup aimé. Et il m'avait expliqué que c'était un homme très attachant, en fait très affectueux, hypersensible bien évidemment, qui n'était pas du tout le Dali qu'on connaît, c'est-à-dire le Dali aux longues moustaches, en train de faire la publicité pour le chocolat Lanvin, en disant je suis fou du chocolat Lanvin. Pas du tout. C'était tout à fait autre chose, c'est-à-dire réellement la vérité Dali, le vrai Dali. C'était ce jeune homme incertain, fragile, rêveur et plein de fulgurance. C'est-à-dire vraiment, il a un don, un génie de l'art en lui, et c'est vrai que autour, eh bien, les gens le trouvent un peu bizarre. Il parle trop vite. Il se met à rire dans des espèces d'explosions de rire qui gênent tout le monde. Donc c'est ce jeune Dali que Gala aimait et avec lequel elle est restée. Moi, j'étais très sensible à cette personnalité. Une fois que on sait cela, on entre différemment dans la sphère Dali. On ne regarde plus ça comme un artifice, un univers factice, mais réellement comme un univers en effet insolite, mais profondément angoissé et lumineux en même temps.
Nous marquons, Dominique Bonnat, une nouvelle pause musicale dans ce numéro de Wagon Livre ce soir sur Radion, avant de revenir sur celle qui nous intéresse, sur Gala, qui fut l'épouse du poète surréaliste Paul Éluard jusqu'à leur divorce en 1932. Et c'est lors de l'été de 1929 que Gala rencontre Salvador Dali, qui a 10 ans de plus qu'elle, lors d'un voyage avec Éluard à Cadaqués en Espagne. Ce sera alors le début d'une grande histoire d'amour, mais on y reviendra. Le peintre Salvador Dali va idolâtrer Gala. On poursuit avec vous notre approche de Gala juste après la pause musicale que nous proposons à bord de ce wagon livre, votre émission littéraire, et nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with. I need you to see that you are the reason, that you are the reason. There goes my head shaking, and you are the reason. Turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken.
'cause I need you to see. I don't wanna find no more. I don't wanna hide no more. I don't wanna cry no more. Come back, I need you to hold me a little closer now. Just a little closer now. Come a little closer. I need you to hold me tonight.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Merci d'être avec nous ce soir. C'est Dominique Bonnat de l'Académie française qui est devant le micro de votre émission littéraire. Dominique Bonnat qui fait paraître Une vie de gala aux éditions Flammarion avec un très grand nombre de documents iconographiques et des archives totalement inédites. Revenons, Dominique Bonnat, si vous le voulez bien, à l'œuvre de Dali. Dali a connu un immense succès financier et ce succès financier, il est tout de même dû à l'action extrêmement tonique de gala.
Dali, c'est à un certain moment, disons, en gros, après la Deuxième Guerre mondiale, a atteint évidemment les proportions presque industrielles, on va dire, parce que Dali avait énormément de succès, un succès américain en grande partie, parce qu'il a passé la guerre en fait aux États-Unis. Le public américain a aimé ce personnage, a aimé sa peinture. Il y a, les plus grands collectionneurs de Dali sont américains. Il y a un très beau musée à Saint-Pétersbourg, mais Saint-Pétersbourg en Floride, et qui a été finalement ouvert grâce aux dons de collectionneurs de Dali. Donc, il est revenu des États-Unis avec cette gloire américaine, et voilà, ça a été très vite à partir de là. Donc, les Dali étaient très recherchés. Il est sûr qu'il a gagné beaucoup d'argent à ce moment-là avec sa peinture, ce qui n'était pas le cas dans les années 20 ou 30, quand Gala l'a connu. Justement, Gala a connu le Dali qui tirait un peu le diable par la queue.
Déshérité par son père aussi.
Déshérité par son père, qui était furieux de le voir peindre des choses aussi bizarres. Et furieux également de voir qu'il s'était mis en ménage avec une femme divorcée qui avait de surcroît 10 ans de plus que lui. Ça ne passait pas du tout dans la bonne société catholique et très provinciale de Figueres, cette ville à la frontière où Dali est né. Une famille de notaires quand même. Il faut se replacer un peu dans ce contexte. Donc Dali était très aimé dans sa famille, mais il choquait, il agaçait. Et c'est vrai que Gala n'a pas contribué à les réconcilier.
Alors je reviens un peu sur la découverte des États-Unis par Dali et Gala. Le premier voyage, c'est décembre 1934. Alors Dali se fait faire une baguette de pain de 20 mètres de long, et donc Gala a un chapeau à côtelettes de mouton qu'on retrouve d'ailleurs sur les peintures.
Oui, ils ont cultivé. Alors je crois qu'il a fait partie des premiers artistes qui ont compris que l'art ne devait pas être confiné au musée ou dans les salons des collectionneurs. L'art devait déborder dans la vie, l'art devait être vivant. Et donc pour ça, ils ont commencé à inventer au fond les à côté, les à côté de l'art, les dérivés de l'art. Donc les chapeaux de Gala, les cannes de Dali, les t-shirts gravés avec des motifs de peinture, etc. Et cette volonté était extrêmement originale à l'époque, participait de ce même goût pour la publicité, évidemment, que Dali a eu extrêmement tôt. Il a une... Je dirais qu'il est avant-gardiste dans la manière de communiquer sur l'art. Aujourd'hui, c'est banal. Tous les artistes, on pense à Jeff Koons et aux autres, qui font de la pub autour de leurs œuvres d'art pour justement sortir un peu l'art du ghetto muséal.
Et pourtant, le groupe surréaliste trouvait que la peinture de Dali était trop académique.
Alors, au départ, cette peinture de Dali les a quand même fascinés parce que Breton en particulier était tombé en arrêt devant des toiles de jeunesse de Salvador Dali et avait tout de suite vu la qualité exceptionnelle du peintre. On peut se fier à Breton pour juger des peintres de son temps. Il a été exceptionnel, Breton. Il a constitué une collection qui doit tout à son œil. C'était un œil, André Breton. Et quand il savait reconnaître le talent, voire le génie, et on peut parler de génie à propos de Salvador Dali, parce que le mot talent est un peu trop mesuré, un peu trop classique pour lui. Il faut qu'il y ait des débordements avec Dali, rien n'est raisonnable avec lui, pas plus d'ailleurs qu'avec Gala. Il faut un petit peu s'abandonner, se laisser aller, il faut laisser les frontières normatives s'écarter. Avec eux, on entre dans une zone un peu fluide, un peu instable, à l'image des camemberts coulants, vous voyez, ou des montres qui ont fini par fondre au soleil et qui représentent toute molle. Donc, c'est marcher dans l'univers de Dali, c'est entrer dans le bizarre, dans l'étrange, dans le mystère, c'est quitter, en tout cas, la sphère conventionnelle. Ça, c'est
l'ésotérique
certain.
Aussi, très important.
Il faut l'imaginer, ce couple aussi, avec son Oslo, c'était pas un léopard, c'était un Oslo, qui tenait en laisse à l'hôtel Meurice, c'est vrai, Gala habillé en Chanel, mais toujours avec un objet un petit peu étonnant ou détonnant, que ce soit un manteau assorti à celui de la fourrure de l'Oslo, ce qui donne un effet quand même un peu surprenant, ou un de ses chapeaux qui plaisait beaucoup à Elsa Schiaparelli, qui en a fait toute une collection.
Il n'empêche que Breton évincera Dali lors d'une scène tribunale à laquelle d'ailleurs Gala assiste, où Dali, vous racontez que Dali a un thermomètre dans la bouche, et de temps en temps il regarde la température, c'est très très drôle.
Oui, il a énormément d'humour. Il faut connaître autant Breton et le sérieux incarné, et d'ailleurs il va exclure Salvador Dali vraiment avec beaucoup de sérieux et instituer un véritable procès à son égard, autant Dali joue en permanence. Dali a un humour fou, Dali rit énormément et aime rire, et il a une manière de regarder la vie qui, d'une certaine façon, déstabilise Breton.
Vous citez Mrs. Nichols, ça doit être une Américaine, qui dit de Dali qu'il a été... Enfin, elle déclarait que Dali était l'esclave de Gala. Car Gala le faisait quand même beaucoup travailler. Elle voulait qu'il honore toutes les commandes, l'argent, à vide à dollars. C'est Breton,
oui,
je crois, qui a créé l'anagramme.
C'est possible, en partie, c'est possible. Mais peut-être trouve-t-on une explication dans une phrase de Dali qui répondait à je ne sais plus qui, à propos de Gala. On lui disait, mais que représente Gala pour vous? Et il répondait, elle est ceci, elle est cela, mais elle est surtout ma béquille. Sans elle, je ne peux pas descendre un escalier sans tomber. Donc y a une grande vérité certainement là, parce que en effet, cet artiste était vulnérable, il était fragile, soumis à toutes sortes de peurs qui le terrifiaient, depuis les insectes jusqu'à la peur de la mort,
enfin, la peur de la prison,
et la peur de la prison, la peur de la révolution, la peur de tout. Et donc Gala était là pour veiller sur lui. Et donc avec Gala, il y avait un semblant de discipline. On allait dans l'atelier. Et là, Gala s'essayait dans un coin et puis elle le regardait peindre. Pas vraiment comme une maîtresse d'école ou comme un maître par rapport à son esclave, mais plus comme une compagne patiente et résignée à ce rôle qui devait certainement l'embêter, mais qui permettait à Dali de poursuivre une œuvre.
Alors quand on parle de Dali, on parle aussi d'Amanda Lear. D'ailleurs, à un moment, oui. Vous expliquez que Gala convoque Amanda Lear et lui dit « Si je disparais, promets-moi de t'occuper de Salvador parce qu'il est incapable d'être seul. Sans moi, il est perdu. » Et ça a été un peu le cas, finalement.
Oui, ça a été le
il
cas.
Il a eu une fin misérable.
Ah oui, il a eu une fin misérable.
Dans la fortune, affreuse. Certes, mais misérable.
Affreuse. Il est mort 7 ans après Gala. Il est mort 7 ans après Gala. Mais ça a été 7 ans de cauchemar pour lui. Parce qu'il s'est senti tout à coup perdu, un enfant perdu. Il a été seul. Il a été, il est tombé entre les mains d'un certain nombre de gens qui étaient extrêmement intéressés et qui là l'ont vraiment exploité, je crois. Bon, voilà. C'est une vie très difficile. Amanda Lear était là du temps de Gala, en effet. C'est la fin de la vie, ça. Gala vieillit. Gala garde de l'appétit pour la vie. Gala a des compagnons, de jeunes compagnons qui l'escortent un peu partout. Et elle se fatigue beaucoup, elle sent qu'elle n'a plus l'énergie qu'il lui faudrait, elle a passé 80 ans, il faut dire, elle n'a plus l'énergie qu'il lui faudrait pour s'occuper de Salvador Dali. Et donc elle se fait aider, en particulier par cette Amanda Lear, une créature de rêve, comme les aimait Dali, parce que Dali aimait peindre des jeunes garçons et des jeunes filles, très jeunes justement, blondes de préférence, bien bronzées l'été. Il aimait s'entourer de toute cette cour d'anges, comme il les appelait, ces anges. Et donc Amanda Lear a été près de Dali, un de ses anges familiers.
Il l'a surnommé d'ailleurs la libellule.
La libellule.
C'était amusant. Alors en plus, il faut imaginer tous ces jeunes gens qui gravitaient autour des Dali.
Qui dînaient chez Maxime, avec lui, par exemple.
Autour de la piscine en forme de phallus. Ah, oui. Enfin, tout est absolument époustouflant quand même dans cette ville.
À Cadaqués, il avait quasiment porte ouverte. J'ai d'ailleurs regretté, quand j'avais 18 ans, de ne pas y être allée. Je n'aurais jamais osé m'approcher de ce royaume. Pour moi, c'était un royaume, le royaume de Salvador Dali. Mais en fait, les gens y allaient. C'était l'époque des hippies, pieds nus, en sandales de cuir. Toute une faune a vécu là au crochet des Dali à Port-Higa.
Je rappelle pour celles et ceux qui prennent en route cette émission que nous parlons ce soir de Gala, la muse d'Éluard et de Dali, à l'occasion de la sortie chez Flammarion d'une biographie signée de Dominique Bonnat de l'Académie française, qui est ce soir devant notre micro, une biographie illustrée et riche d'archives inédites qui nous présente l'aventure surréaliste sous un jour nouveau. Dominique Bonnat revient, je rappelle qu'elle est écrivain, lauréate du prix Interallié puis du Renaudot et qu'elle est membre de l'Académie française depuis 2013. Bonne soirée, nous revenons dans une poignée de minutes.
I'm not leaving here for you.
when you don't take it serious. I know you don't take it serious, but I'm not breathing, I'm not sleeping, I'm not leaving here. Are you? But I'm not breathing, I'm not sleeping, I'm not leaving here. Are you? You are my heart lost in a star. You'll love me soon up on the moon and I. Oh my, you are my heart lost in a star and all my down. Hey.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nous sommes toujours ce soir avec Dominique Bonnat de l'Académie française pour Une vie de gala, disponible aux éditions Flammarion Gala, qui a inspiré le poète Paul Éluard et le peintre Salvador Dali. Dominique Bonnat, à l'aube des années 80, les Dali donnent l'image d'un couple à la dérive. Lui, à 76 ans, maigri, voûté, ratatiné et presque chauve, ressemble à sa propre caricature. Il tremble comme une feuille sous son manteau de panthère. Quant à Gala, elle a 86 ans, et Dominique Bonnat, il faut le dire, Gala ne supporte plus Dali comme avant et Gala aspire à la solitude.
Mais le couple a quand même vieilli, c'est gris, ça devient difficile. Gala ne supporte pas vraiment bien sa vieillesse. Elle se fait tirer le visage à plusieurs reprises pour essayer de garder une allure un peu juvénile. Et puis un jour, elle en a assez de Cadaquès, sans doute assez de surveiller Dali. Elle a besoin de prendre ses distances. Et elle trouve un château, en fait une grosse maison, dans une bourgade qui s'appelle Poubol, à l'intérieur des terres. Et elle va devenir la reine de Poubol, comme elle avait été pour Éluard la reine de Paleune dans un de ses premiers recueils de poèmes. Donc elle s'installe à Poubol, elle fait toutes sortes de travaux insensés. C'est quelque chose entre le Moyen-Âge et puis le kitsch. C'est un peu étonnant, ce château de Poubol. Dali est mis à contribution pour peindre, pour donner un peu de mise en scène à tout ça. Elle lui demande notamment de fabriquer ses caches radiateurs. Et alors Dali, pour cacher les radiateurs, dessine sur les panneaux en bois des radiateurs. Mais évidemment, les radiateurs signés Dali. Donc, il y a des girafes, c'est un univers aussi.
Et puis,
toujours,
il y a le trône quand même.
Voilà, un trône en plus. Un trône, oui, c'est une vraie reine, Gala.
Alors, c'est vrai que ce qui est très chouette, c'est l'accompagnement des documents iconographiques avec le texte. Il y a ce renvoi continuel en vous lisant dans ce très
oui.
beau livre. C'est très agréable aussi de
si
voir.
Vous alors, c'est vrai que depuis les premiers portraits de Gala par Man Ray, par Brassailles, il y a quand même les plus grands photographes qui ont célébré la beauté de Gala, cette beauté mystérieuse, évidemment jusqu'au paysage de catalan autour de Cadaqués et de Poubol, en passant par l'Amérique, les hôtels où ils ont vécu, les propriétés où ils ont été invités, et puis par tout le cortège des fêtes surréalistes qui sont quand même très amusantes, on voit passer là presque tout un siècle qui s'est beaucoup amusé, qui a connu des tragédies effectivement, qui a traversé des guerres, mais qui s'est aussi beaucoup amusé.
Alors Gala avait de la famille encore dans ce qui est devenu l'Union soviétique. Elle n'avait pas de sympathie à l'égard du régime stalinien. Elle était plutôt pro-américaine, d'ailleurs.
Elle est tout à fait pro-américaine. Elle était en Espagne, évidemment, au moment de la guerre civile, ils sont partis. Ils désapprouvaient totalement la guerre civile. Ils ne sont pas du côté républicain, Salvador et Gala. Mais donc, elle, vous savez, c'était une femme qui ne se déplaçait jamais sans deux valises. Deux valises qui étaient toujours prêtes à ses côtés. Il y avait une valise avec des médicaments, toutes sortes de médicaments, et une autre valise remplie de dollars. On a souvent dit que Dali était Avida Dollar. C'était les Bretons qui lui avaient méchamment trouvé ce surnom. Mais en fait, Avida Dollar, c'était plutôt Gala dans le couple. C'est-à-dire une envie d'amasser par peur de manquer. Est-ce parce qu'elle a connu la révolution russe? C'est une femme dont la famille a souffert de 1917. Et elle a connu aussi cette révolution en Espagne, enfin cette guerre civile de 1936, qui l'a tout à fait effrayée. Donc l'Amérique, pour elle, c'est le refuge, c'est l'endroit où elle se sent le plus protégée.
Gala a commis sans doute une erreur aux États-Unis en arborant un chapeau avec une poupée celluloïde qui représentait le cadavre d'un enfant. Ça a beaucoup choqué l'Amérique, d'autant plus que ça se passe donc dans les années 30, et il y a eu ce fait divers terrible de l'enfant assassiné de Lindbergh.
Oui, c'est... alors justement là on peut se dire, est-ce qu'elle l'a fait exprès, est-ce que c'est une coïncidence, on ne le sait pas, mais on peut penser qu'elle l'a fait exprès, car elle n'avait peur de rien, surtout pas de choquer. C'est la limite de Gala, cette espèce de rage à déranger le citoyen.
J'étais dalinien, dit Dali. Finalement, il n'était pas surréaliste, il était dalinien. Ou alors, il a cette phrase très amusante, la différence entre moi et les surréalistes, c'est que moi, je suis vraiment surréaliste.
Oui, il a des déclarations très fortes. Hein. C'était une intelligence, Dali. Peut-être ne le dit-on pas assez. C'est un homme extrêmement intelligent, très fin. Et puis avec cet esprit qui lui permet justement d'être à distance et une lucidité aussi de créateur.
Alors Dali est drôle, au point parfois même il a pris des risques gigantesques. C'est en juillet 36, lors de la première exposition surréaliste internationale à Londres, il y a l'épisode du scaphandrier.
Oui, exactement.
C'est drôle et à la fois ça aurait pu être dramatique.
Mais oui, parce qu'on peut étouffer dans un scaphandre, en effet. Non, il a essayé toutes sortes d'expérimentations pour justement nourrir son art à la fois des nouvelles découvertes, des expériences les plus incongrues. Il a tout essayé, Dali, justement, pour ouvrir cet univers artistique.
Alors, ceci dit, bon, on pourra le reprocher d'avoir quand même vécu confortablement à l'abri, oui. Alors que Paul Éluard était dans la résistance, dans la clandestinité, pourchassé et poursuivi par toutes les polices françaises et allemandes.
Oui, on peut toujours faire le procès des individus. Moi, j'évite de faire ça dans mes biographies. Vous savez pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut replacer, bien évidemment, tous les personnages dans un contexte historique, non seulement historique, mais je dirais individuel, familial, vraiment d'ordre privé. Et on ne peut pas projeter sur cette époque nos prismes à nous. Il faut replonger dans ces années difficiles pour essayer de naviguer au plus près de ce qu'a été la vérité des gens.
En tout cas, cette vérité, elle est sous votre plume et en appui avec les documents iconographiques, dont de nombreux inédits qui ont été fournis par la succession Éluard. Donc, Une vie de Gala de Dominique Bonnat de l'Académie française. Et c'est aux éditions Flammarion. Nous n'aurons qu'ébauché la vie de Gala, mais on aura donné, j'espère, l'envie d'aller creuser et d'en savoir un peu plus sur la vie d'une femme aussi surprenante que son époque. Encore un grand merci Dominique Bonnat de nous avoir consacré du temps ce soir pour l'émission littéraire de Radion Wagon Livre. Je rappelle donc Une vie de Gala, disponible chez vos libraires aux éditions Flammarion. La semaine prochaine, mercredi 7 février, toujours sur Radion à partir de 21h, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec une grande dame de la radio et de la télévision. Elle est également pianiste. de métier, c'est Ève Ruggieri qui vient de faire paraître aux éditions Plon un dictionnaire amoureux de Mozart, un entretien que j'ai enregistré avec elle à Paris le 17 janvier dernier et que nous vous proposerons la semaine prochaine. Merci à vous toutes et tous de nous avoir accompagnés ce soir. Je rappelle que cette émission sera disponible à l'écoute sur le site d'archives de Wagon Livre. Il suffit de pianoter sur son clavier d'ordinateur le www.yannickpetit.fr. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de Radion. Au revoir et à la semaine prochaine.